Voilà, on va peut-être pas trop voir, je sais pas s'il faudrait peut-être pas éteindre là le cheminer dans ses choix. On a eu notre répète jeudi soir, et puis il y a Sandy qui nous a partagé un truc, et moi ça faisait ricocher dans mon cerveau. Bon, mon cerveau est plein, hein, je vous rassure, mais il faisait quand même ricocher le thème. Et c'est vrai que ce qu'elle apportait, c'était bon, parce que je dis pas que c'était pour une fois, c'était bon. J'ai pas dit pour une fois, Sandy, ce qu'elle apportait, c'était bon. J'ai dit, voilà, ce qu'elle apportait, c'est bon. C'était bon parce que elle a dit, voilà, on a un choix à faire. Et ce matin, sa louange, c'était sur ce thème-là. Et quand j'ai su, parce que j'ai su tardivement que c'était moi qui prêchais, j'ai su que je devais prêcher, je me suis dit, mais pourquoi aller chercher ailleurs un thème? Ce que Sandy a apporté jeudi soir, c'était bon. Pour un coup. Non, c'était bon. Sandy, ce qu'elle a apporté, c'était vraiment bien. Le choix, le fait de faire le choix. Et ce matin, le thème de sa louange, c'était vraiment de venir et de faire le choix de plonger dans la louange, d'être dans la louange, de faire des choix. Déjà, faire le choix de venir à l'église, de faire le choix de venir se rassembler avec ses frères et sœurs, de faire un choix qui soit bon pour le bon royaume. Et ça, c'est quelque chose qui est bon. Ça m'a fait du bien quand elle a apporté ça jeudi soir. Et je pense que tout le groupe était aussi exhorté par rapport à ça. Ça nous a fait un bien fou. Et donc, c'est vrai que ben, je me suis dit, ben, eh ben, c'est tout. Voilà, mon thème, il est tout trouvé. Faire un cheminer dans ses choix. Alors, c'est vrai, j'ai eu du mal à trouver un titre. J'aime bien trouver un titre parce que ça permet de repérer un prêche aussi. Quand vous allez sur notre site, tous nos prêches sont là. Et des fois, ça permet de retrouver. Et au début, j'avais mis choix de vie ou de mort. Choix de vie ou de mort, mon prêche. Parce que j'avais question de vie ou de mort. Vous savez, on dit c'est une question de vie ou de mort. Eh bien, les choix, c'est la même chose. C'est aussi des choix de vie ou de mort. Parce qu'en fonction du choix que vous allez faire, eh bien, vous allez partir vers la vie ou vers la mort. Vous allez partir vers le bon ou le moins bon. Vous allez partir dans des chemins qui pourront être chaotiques ou des chemins qui seront un peu moins chaotiques. Parce que je ne dis pas que la vie est rose tout le temps avec Dieu. La preuve, on a traversé avec une épreuve avec Pascaline qui, aujourd'hui, on en voit le résultat parce que Dieu a béni malgré tout. D'accord? Alors, je vais commencer par lire un. Alors, j'ai quelques passages à vous lire. Prenez patience, ça va être sympa. Mais Deutéronome 30, les versets 15 à 20. Regarde. Déjà, c'est un ordre. Regarde. Je mets aujourd'hui devant toi. D'accord? Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien ou la mort et le mal. Déjà, deux chemins. Qui dit deux chemins dit un choix. D'accord? C'est la vie ou le mal. C'est la vie ou le bien, pardon, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris, on est chez un toubib, hein, il y a son ordonnancier devant, elle a dit, voilà, toi, je vais te prescrire la vie, ou toi, je vais te prescrire le mal. Mais je te prescris aujourd'hui quand même, malgré tout, parce que j'ai un bon cœur, d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Elle est longue, l'ordonnance, mais elle est sympa quand même. Elle est sympa, cette ordonnance. Là, on nous prescrit réellement de partir dans un choix qui est bon, qui est de partir dans les voies que Dieu a de meilleures pour nous. Parce que Dieu a des bonnes voies pour chacun. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez... Voilà, moi je pense que Dieu, forcément, et ça c'est un verset que je vais prendre, c'est un verset aussi qui m'est cher, c'est l'un de mes versets préférés dans la Bible, et je le dis à qui veut bien l'entendre, Jérémie 29, 11. Dieu nous dit qu'il a des projets de paix et non pas de malheur pour nous. Jérémie 29, 11. Retenez Jérémie 29, 11. Ça, moi, c'est en ce moment, c'est un verset qui est revenu à plusieurs reprises sur ma route, tout le temps où on a été chahuté, enfin, pas, on a été un peu chahuté, pardon, avec Pascaline. C'est un verset qui est revenu à plusieurs reprises sur ma route. Mais il y a l'Éternel qui me disait, mais Fred, j'ai des chemins de paix pour toi, pas de malheur. Sache que l'épreuve dans laquelle tu es, je vais t'en sortir. Je vais t'en sortir parce que je sais que l'avenir que j'ai prévu pour toi sera un bon avenir. Mais pour ça, tu as un choix à faire. Et ça, si aujourd'hui, toi, tu es dans l'épreuve, et je pense qu'il y en a quelques-uns ici qui sont dans l'épreuve, j'en parlais avec quelques personnes ce matin, en ce moment, on a une personne dans l'église qui est vraiment chahutée physiquement, dans sa santé. Elle fait partie du groupe de louanges, et elle me disait, mais oui, en ce moment, je suis pas mal attaquée, encore cette nuit, j'ai été attaquée physiquement. Et elle a fait le choix de lutter contre ça. Elle a fait le choix de partir dans une route qui était la bonne, c'est-à-dire de pouvoir partir dans la vie et le bien, et de dire, voilà, moi je vais lutter parce que Dieu me permet de lutter contre ces attaques physiques. Et elle a eu la victoire. Elle a eu la victoire. Elle a réussi à s'endormir de façon sereine, en paix, parce que Dieu a un avenir de paix pour chacun de nous. Jérémie 29, 11. D'accord? On continue la lecture, verset 17. Mais si ton cœur se détourne de lui, Si tu ne lui obéis pas, et si tu ne te laisses entraîner, et si tu te laisses, pardon, entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui, je te déclare là maintenant, eh bien sache que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. C'est des paroles qui, même si elles sont dans Deutéronome, donc dans l'Ancien Testament, eh bien, elles sont encore actuelles aujourd'hui. Dieu dit la même chose. Si vous ne choisissez pas le bien, si vous ne choisissez pas les voies de Dieu, vous périrez. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le terrain. 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, il insiste là sur son ordonnance, il continue. Je te prescris de choisir la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. C'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Waouh, ça y est, je l'ai lu. Est-ce que ça va? Ouais, c'est dur. Mais la conclusion de ce passage, c'est que un choix. On a un choix. On a un choix, mais Dieu est un bon Dieu. Des fois, c'est un pléonasme, on dit. C'est un bon Dieu. Mais moi, j'aime bien dire, Dieu est un bon Dieu. Des fois, c'est devenu un juron. Oh, bon Dieu. Hein, les gens, ils disent ça. Oh, bon Dieu. Mais des fois, je leur dis, moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit bon Dieu, ben, oui, je dis oui, il est bon Dieu. Oui. Ben ouais. Non mais c'est vrai. Et on a un bon Dieu parce qu'on a un Dieu qui nous a donné cette notion de libre arbitre. Premier point. Le libre arbitre. C'est un point que je voulais aborder un peu plus loin dans mon prêche, je vais l'aborder maintenant. Dernièrement, j'ai vu un témoignage de... Alors, comment il s'appelle? J'arrive jamais à me souvenir de son nom. Il s'appelle... C'est un... Quelqu'un qui a une marionnette, vous savez, un ventriloque, ça va, vous suivez. Non, un ventriloque, il s'appelle Jeff Panaclock. Et son singe s'appelle Jean-Marc. Il est passé... Pardon ? Hier ? Hier ? Non, je n'ai pas vu hier. J'ai vu il y a 15 jours ou 3 semaines à 7 à 8. Voilà, c'était pour la petite pub pour Harry Roselmack. Et c'est impressionnant, c'est impressionnant là. Comment dire, cette relation qu'il y a entre ce singe et puis Jeff, son ventriloque. Ils ont une ambiguïté dans leur relation qui est un peu à la fois malsaine, qui est rigolote, parce que c'est vrai qu'on rigole, il a de l'humour. Et des fois, on arrive à en oublier Jeff qui est à côté, et on voit Jean-Marc, et on imagine tout à fait Jean-Marc en étant une personne à part entière. Et je réécoutais pendant que je faisais mon prêche. Je voulais mettre la vidéo sur certains passages, j'ai pas réussi, mais je re-regardais ce témoignage. Et en fait, il y a Jean-Marc, donc ce singe qui est complètement vulgaire, qui est complètement débridé, qui est obsédé sexuel, qui est tout ce que vous voulez. Et puis vous avez à côté Jeff, qui est le timide, qui est à l'inverse de Jean-Marc, et qui est vraiment dans cette réserve qui est là. Et des fois, il y a des chrétiens, on a l'impression que c'est un peu des chrétiens marionnettes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, moi je suis débridé parce qu'il y a Dieu qui va... Et on a tendance à prendre cette démarche. J'aime pas moi cette ventriloquie, parce que ça s'appelle comme ça, alors, de la ventriloquie, ou même des imitateurs. Des fois, ça m'arrive de tomber sur Canteloup ou des choses comme ça. Et ce sont des gens qui prennent un mur, un masque, et qui, par ce masque, vont se permettre de se moquer des gens. Vont se permettre de dire des choses qui sont affreuses, des choses qui sont ignobles. Là, il y a Jeff et donc son singe Jean-Marc qui se sont moqués du bras de Jamel Debbouze. Hein, Jamel, il a un bras qui est atrophié, donc il se moque de son bras. Et à un moment, le journaliste disait, mais comment il l'a pris, Jamel? Et il y a Jeff qui dit, on ne sait pas trop comment il l'a pris, mais il a rigolé quand même. Mais bon, c'était quand même affreux. Et des fois, on a tendance à se mettre une carapace comme ça, à se dire, voilà, Dieu... Alors, bien évidemment, j'enlève tout ce côté un peu ignoble. Mais des fois, on a des chrétiens qui disent, ben voilà, moi, j'ai plus cette notion de liberté, j'ai plus cette notion de libre arbitre parce que Dieu est au contrôle de ma vie. Non, on n'est pas des marionnettes. Dieu n'est pas là pour gérer toute votre vie. Il vous laisse tout le temps, il nous laisse tout le temps une notion de libre arbitre. Et c'est le cas ici. J'ai mis devant toi la vie et le bien ou la mort et le mal. Tu choisis. Moi, je te prescris quand même de prendre la vie, mais tu choisis, tu fais ce que tu veux, tu as un choix, tu as un libre arbitre. Je suis pas, tu n'es pas ma marionnette. Tu n'es pas ma marionnette. Dieu te le dit ce matin. Tu n'es pas ma marionnette. Au contraire, ta vie, c'est toi qui vas la faire. Si tu l'as fait avec moi, et bien évidemment, on a un Dieu qui est bienveillant. Ça, c'est indéniable. On a un Dieu qui est bienveillant. On a un Dieu qui veut absolument qu'on puisse avoir un avenir de paix et non pas de malheur. Et c'est pour ça que même la Bible nous dit que Dieu a prévu les œuvres d'avance. Les œuvres que l'on va faire, il les a prévues d'avance. À nous de rentrer dans ces œuvres. Tu as le choix maintenant de rentrer dans ces œuvres. Tu as un choix qui est là, qui se présente devant toi. Et donc le principe de la marionnette, eh bien il faut la balayer dans le monde chrétien. On n'est pas des marionnettes. Ce que je vous rassure, mais, enfin je vous rappelle, mais vous savez où il met son bras. Mais bon, voilà. D'accord ? C'est bon, excusez-moi, mais voilà. On n'est pas des marionnettes. On est vraiment, on a cette notion de libre arbitre. Et c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que Dieu est un gentleman. Il est un gentleman. Quand il vient toquer à la porte d'un cœur, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va frapper à la porte du cœur. Il va frapper à la porte. Et tant que le cœur ne s'ouvre pas, il ne va pas rentrer. Par contre, le jour où le cœur s'ouvre, eh bien là, il va se faire un plaisir de rentrer, faire sa demeure dans cette personne, de changer sa vie et de faire en sorte que sa vie soit différente que celle qu'il avait auparavant. Parce que cette personne qui aura ouvert son cœur aura fait un choix. Un choix. Le choix de choisir la vie et le bien. Et non pas la mort et le mal. Ça va ? Notion de libre arbitre. Gardez ça, pas des marionnettes. Nous avons ce libre arbitre. Matthieu 26, les versets 39 à 42. Puis il avança de quelque part, se jeta visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Quand Sandy donnait ce partage jeudi soir, c'est exactement ce qui était là dans ma tête. Mais quand Jésus savait qu'il allait être livré juste quelques minutes après par Judas, un de ses proches, un de ses 12 apôtres. Il a été livré et Jésus, un peu avant, sachant ça, il a passé des temps de prière avec des apôtres en plus qui s'endormaient quand lui, il partait en prière. Mais à chaque fois, il allait voir son père et il disait « Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est ce qu'on lit là. Visage contre terre et fit cette prière, mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est pas là mon choix. C'est-à-dire que j'ai le choix, et Jésus aurait très bien pu faire le choix de refuser ça, mais il ne l'a pas fait. Il s'est soumis, malgré tout, à la volonté de Dieu. Il a choisi le bien. Il a choisi le bien et non pas la mort ou le mal. Parce que la mort, il l'a eu après, donc je vais plutôt dire le mal. Mais Jésus aurait très bien pu dire, moi je renonce. Je suis fils de Dieu. Moi je renonce. À partir de là, si je renonce, je sais que derrière moi, toute l'humanité est perdue. Mais Jésus, il a payé le prix, il a fait le choix de payer le prix et de dire, écoute Seigneur, écoute Père, puisqu'il s'adresse à son Père, voilà, cette coupe, elle va être dure, elle va être très dure. Et il le savait. Mais je me soumets quand même, je prends cette prescription qui est dans Deutéronome, je prends la vie, c'est-à-dire que j'accepte ce que tu vois, ce que toi tu veux pour ma vie, pour que derrière, bah, toute l'humanité puisse vivre de ce sacrifice que je vais faire. Quel privilège, non ? C'est un privilège qui est tellement puissant, un privilège que, voilà, on a, je ne pense pas qu'on puisse mesurer grand-chose de ce sacrifice. Il faudrait qu'on demande à Dieu, qu'on prie chaque jour pour dire « Seigneur, fais-moi prendre conscience de ce privilège, qu'on puisse continuer chaque jour à dire « Je veux prendre encore plus conscience de ce privilège, de ce sacrifice que Jésus a fait pour moi sur la croix. » Parce que je te rappelle, ce sacrifice, il est fait pour chacun ici, pour toi, pour moi, chacun ici. Il n'y a pas de chouchou. Je l'ai encore dit mardi soir au groupe Croissance. Il n'y a pas de chouchou avec Dieu. On est tous des chouchous. Jésus a fait ce sacrifice pour chacun d'entre nous, pour qu'aujourd'hui on puisse être là, présent devant lui, dans sa présence, et qu'on puisse lui montrer notre amour, notre reconnaissance, qu'on puisse se présenter devant lui comme des sacrifices vivants de louange. C'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 6, 12, il le dit deux fois dans 1 Corinthiens, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Des fois, on a tendance à nous dire, vous les chrétiens, vous êtes des marionnettes. Il y a Dieu qui est là et qui parle, voilà, vous êtes des marionnettes de Dieu et Dieu vous interdit de faire plein de choses ou de dire plein de choses. Non. Avec Dieu, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas recommandées. Et c'est ce que dit Paul. Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et même plus loin, il dit tout m'est permis, mais Alors attendez, parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et plus loin, il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Deux fois, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, et la fin de la phrase est différente. Parce que Paul a fait aussi le choix de partir, évidemment, il avait des choses qui lui étaient permises, mais il n'est pas rentré dedans, il a dit, OK, ça je sais que je peux le faire, mais je ne le fais pas parce que je choisis cette prescription de rester dans le bien. Parce que ce n'est pas forcément utile. Ce n'est pas forcément utile. Et ce que je vais faire, je pourrais très bien le faire, mais ça ne va pas m'édifier. Paul a fait le choix. Il a fait ce choix, et vous connaissez pour certains, pour la plupart ici, vous connaissez le témoignage de Paul, qui avant d'être Paul, était un persécuteur. C'est lui qui a persécuté l'Église. Il tuait des chrétiens. Et donc ici, Jésus a fait ce choix de dire Seigneur, enfin Père, parce qu'il s'adresse à son Père. Voilà. Et après, il va revoir ses disciples, donc ils sont endormis, etc. Et il retourne une nouvelle fois, parce qu'il a conscience de cette épreuve qu'il va traverser. Il recommence, il dit Père, il se met face contre terre. Il dit Père, voilà, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Je fais le choix de me soumettre à toi. Le sujet de la soumission est un sujet important dans l'Église. C'est un sujet dans lequel on pourrait prêcher des dimanches et des dimanches. Parce que c'est dur de se soumettre. D'autant plus nous qui avons cette culture latine, les Français. On n'est pas soumis, nous, les Français. On n'aime pas se soumettre. On n'aime pas ça. Et dans le milieu chrétien, on n'est pas non plus là, non, c'est aussi ce que je partageais mardi, mais on n'est pas dans une démocratie. Des fois, on a tendance à se dire, mais l'Église, c'est une démocratie. On a tous le droit de dire ce qu'on veut. Non. Non, non, tu es dans une royauté. Tu te soumets à Dieu, tu ne te soumets pas à Dieu. Oula, c'est un pavé celui-là. Hein. Ça va? Ouais? Bon, c'est des petits oui quand même, mais bon, voilà. Notion de libre arbitre, notion de libre arbitre, toujours. On a cette notion de libre arbitre, de choix. On a le choix d'être avec Dieu ou sans Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, dans le monde, vous avez des chrétiens et des non-chrétiens. Dieu n'a pas imposé à tout le monde d'être chrétien. Il y a certaines religions aujourd'hui où c'est imposé. C'est imposé. J'ai vu cette semaine une vidéo qui m'a choqué sur une page Facebook. J'aurais pas dû la regarder, mais je l'ai regardée. C'est dans les milieux islamiques, une femme qui porte une veste rouge. Ben parce qu'elle porte une veste rouge, ils la descendent dans la rue. Parce qu'ils ont imposé une loi. Imposé une loi qui est là. Et nous, on a un Dieu d'amour, on a un Dieu qui est tellement d'amour, qui a envie de nous donner le meilleur. Peu importe que tu portes une veste rouge, noire, verte, jaune, lui, ce qu'il veut, c'est là, c'est ton cœur. Il veut que tu aies une attitude de cœur qui soit sincère avec lui, que tu fasses ce choix de pouvoir dire, Seigneur, moi, c'est la relation, c'est pas la religion, c'est la relation que je veux avec toi. Je veux avoir ce choix de rentrer dans une relation avec toi et non pas dans une religion. Si vous êtes aujourd'hui dans une religion, priez pour ça, pour que Dieu vous en libère. Parce que je pense que c'est le pire qu'on puisse avoir aujourd'hui. L'un des cas, l'une des choses les pires qu'on puisse avoir, c'est de vivre dans une religion. De dire, ben moi, je vais à la messe parce qu'il faut que j'aille à la messe. Ou moi, je vais au culte parce qu'il faut que j'aille au culte. Ou moi, il faut que je fasse ma prière avant de manger parce que c'est comme ça. Non, t'es pas dans une religion. Rien n'est important, tout est permis, tout n'est pas utile, mais il y a des choses qui sont utiles. Parce que Dieu veut que tu sois là. Alors bien évidemment, je vous encourage fortement à venir au culte. C'est vrai que on se fait du bien quand on est tous ensemble. C'était le piège du matin, vous êtes tous tombés dedans. On se fait du bien à être tous ensemble. Quand on vit la présence de Dieu comme on l'a vécu ce matin dans la louange, eh bien là, quand on est dans cette unité, à un moment j'étais là, mais il y avait quelque chose qui se passait, c'était waouh. C'était ça, c'était waouh. Parce que Dieu était là, il y avait la présence de Dieu qui était palpable. Et si vraiment vous ne l'avez pas senti, vous n'avez pas goûté cette présence, recherchez-la. Parce que Dieu, il est un Dieu qui veut venir dans ton cœur, qui veut faire du bien. Il veut venir là, il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien, mais un bien fou. Parce que c'est un Dieu d'amour. Et ce que je dis là, c'est pas, voilà, tout coucou, on est dans un petit monde de bisounours, etc. Non, je suis pas sur un petit nuage. Je l'ai vécu, je suis capable d'en témoigner. Je suis capable de témoigner que Dieu est un Dieu d'amour. Je suis capable de témoigner que Dieu prend des circonstances de la vie pour les changer. Je suis capable de témoigner que Dieu prend des maladies pour les enlever et te guérir. Je suis capable de témoigner que Dieu, il veut le meilleur pour toi. Je suis capable de témoigner que Dieu a agi dans ma vie. Je suis capable de témoigner que Dieu a changé ma vie. Je suis capable de témoigner que le Fred qui était avant n'est plus le même Fred qu'il est aujourd'hui. Et là, Jésus dit, en effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé, son Père. Il est envoyé par son Père pour dire, voilà, eh bien écoute, tu vas devenir homme. Tu vas naître du ventre d'une femme, Marie, qui n'est pas un dieu, entre parenthèses. C'est une femme qui a été choisie par Dieu. Elle a eu un ministère merveilleux, privilégié, mais ce n'est pas un dieu. Et à partir du moment où tu vas grandir, tu vas entrer dans le ministère et tu vas donner ta vie en sacrifice pour que moi, je puisse voir que par ce sacrifice, tu puisses racheter l'ensemble de la terre. Parce que Dieu ne veut pas qu'un seul ne périsse. Ça, c'est biblique. Dieu ne veut pas qu'un seul ne périsse. Il veut tous nous sauver. Il veut tous que nous soyons avec lui dans l'éternité. Il le veut tous. Il nous veut tous. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne veut que du bien. Et donc, Jésus le dit. Je ne suis pas descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais par choix, je fais celle de celui qui m'a envoyé. Même Jésus a choisi. Même Jésus, il avait ce choix de dire non, je renonce. Ou oui, j'accepte. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Excellent, non ? Excellent. Super. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. Les choix. On a tous des choix. On peut tous en avoir des choix. On en a tous des choix. Tous les matins, quand on se lève, on a des choix à faire. Je me lève, je ne me lève pas. Ça, c'est un choix. Je déjeune pas. C'est un choix. Je me lave, je ne me lave pas. Je préférerais que... Il y en a plusieurs qui ont fait le choix contre la douche ce matin, non ? Mais des choix, on en a plein. Mais il y a des choix qui sont plus sérieux que ça. Il y a des choix qui sont plus sérieux que ça. Tout à l'heure, je vous témoignais que j'ai retrouvé du travail. Et sans envoyer... je vais me gargariser, tiens, ça va faire du bien un peu. Sans envoyer aucun CV, j'ai 4 entreprises qui m'ont appelé. 4 entreprises qui me voulaient. D'accord ? Et à partir du moment où vous avez 4 entreprises, bah, vous ne pouvez pas vous diviser en 4. Donc j'ai prié avec Pascaline, on a prié, j'ai dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que là où tu ne veux pas que je sois, tu fermes les portes. » Je suis allé à Nantes, j'ai eu 3 entretiens dans la première entreprise et des super entretiens. Franchement, même le PDG, qui était, j'ai témoigné l'autre fois, mais c'est un multimillionnaire, il avait la clé de la Ferrari là sur son bureau, je lui ai demandé si j'avais la même voiture de fonction, il m'a dit non. D'accord. Il m'a dit, vous allez rouler en C4. Ok. Je pourrais mettre un cheval dessus. Il m'a dit oui. Et il m'a dit, mais moi, je vois, il n'y a aucun obstacle pour que vous rentriez dans la société. Il me l'a dit. Et puis, donc, je pars, je rentre ici à Lille et je reçois le coup de fil quelques jours après. Je m'attendais à un oui. Et c'est vrai que cette entreprise, j'aurais bien aimé y aller. C'était une entreprise voilà, qui avait bon, des bons... Et puis, ben, je reçois le coup de fil et le consultant me dit, ben, c'est non. Mais je dis, pourquoi c'est non ? Ben, ouais, voilà, le sifflet qui est coupé, je ne comprenais pas, quoi. Et il m'a sorti des trucs, mais c'était aberrant. Je dis, mais c'est pas des motifs, ça, pour dire non ? Il me dit, oui, je le sais, c'est pas un motif, mais c'est non. Ok. Alors, il y a la déception qui est là. Vous savez, comme dans les dessins animés, vous avez le cœur qui... Et non. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas ta volonté, point. La porte se ferme, c'est tout, j'y vais pas. Et j'ai pas insisté. J'ai dit, ok, bon, tant pis, ce sera pour la prochaine. Merci, au revoir. Donc, la deuxième entreprise, je rencontre, et là, j'avais pas dans le cœur, j'étais pas en paix. Et j'ai dit, ok, voilà, bon, si on doit se revoir, on se reverra. Et en fait, on s'est jamais rappelé avec ce monsieur. Dieu a fermé la porte. Troisième entreprise, là, ils me disent oui. Et puis la quatrième entreprise, ils me disent oui. Et j'ai 2 oui. Qu'est-ce que je fais avec 2 oui ? Je prends les 2. 2 salaires, 2 voitures. Allez, 2 boulots. Non. Seigneur, j'ai 2 portes ouvertes, je fais quoi là ? Et en fait, ben, après, c'était à moi de faire un choix. Là, Dieu m'a mis devant des circonstances où j'ai dû faire un choix. Bon, je ne l'ai pas pris tout seul le choix, hein. Bien évidemment, j'en parle avec Pascaline. Mais j'ai aussi téléphoné à des collègues, des anciens collègues, dire voilà, qu'est-ce que je fais? Il me dit voilà, prends plutôt ça, etc. J'ai demandé. Et puis voilà, demain, je commence un boulot. Et puis voilà. Mais Dieu m'a permis de prendre un choix. Il a fermé des portes. Il fermera des portes de certaines circonstances dans votre vie, mais il en laissera ouvertes pour que vous puissiez aussi lui faire confiance. Le libre arbitre, toujours ce libre arbitre, il est toujours là. Et ça, c'est génial. Parce qu'on n'est pas des marionnettes avec un bras dans le. On est là pour dire, Seigneur, moi je veux faire ta volonté. Non pas la volonté d'un autre, mais ta volonté. D'accord? Et donc les choix, parfois, eh bien, il y a ceux qui vont se dire, bah, moi j'ai peur, donc je vais prendre quand même la facilité. Donc il y a des craintes qui sont là. J'aurais pu les mettre au pluriel, je sais, les craintes. Mais j'ai pris la crainte. La crainte en général. La crainte, voilà, j'ai un choix à faire, mais bon, j'ai les pétoches et allez, je prends la notion de facilité. Vous pouvez, hein? Peut-être que ça vous fait faire des tours et des contours, mais vous pouvez vous permettre de faire ça. Et puis il y a ceux qui vont avoir plus de zèle et de dire, voilà, moi Seigneur, bah, écoute, je te fais confiance. Alors, je parle bien dans certaines circonstances. Hein. Ce n'est pas le fait de prendre une douche ou pas de douche, hein, on s'en fout, ça. D'accord? C'est vraiment le fait de dire, moi j'ai des circonstances qui sont là devant, Dieu m'ouvre des portes ou Dieu va m'enfermer, même si elles sont fermées à la limite, je n'ai même pas besoin de discuter quand on sait que c'est Dieu qui les ferme. Mais quand j'ai des circonstances qui sont ouvertes, eh bien je dis Seigneur, soit je prends la notion de facilité et j'aurais pu prendre cet autre boulot, mais il y avait des circonstances qui étaient moins bonnes et j'ai pris le meilleur. Je ne m'en cache pas, j'ai pris le meilleur. Mais j'ai fait cette fois, j'ai fait ce pas de foi en disant Seigneur, je choisis ce boulot-là parce que tu as permis que la porte soit ouverte. C'est que quelque part, tu acceptes, tu me dis oui. Et donc si Dieu dit oui, après c'est à toi, dans ta notion de libre arbitre, de dire ok, Seigneur, tu me permets ça ou ça. Allez, je fais ça. Et là, Dieu voit ta décision et Dieu va voir ta marche dans ce chemin. Et donc ce boulot que j'ai pris, peut-être que ça va être un boulot qui va durer 10 ans, 15 ans, peut-être. C'est peut-être un boulot qui va durer 6 mois. Peut-être que Dieu m'envoie juste pour une mission, comme je l'ai fait dans mon ancien travail. J'ai eu une mission, j'ai témoigné à certaines personnes, et voilà, je sais que ma mission à un moment était terminée. Et je l'ai senti. Et donc, c'est vraiment cette notion de libre arbitre, elle est très importante. Parce qu'il faut qu'on puisse se dire, ok, Seigneur, tu me donnes un choix. Et je laisse rien à la chance. Ça aussi, c'est un terme qu'il faut qu'on bannisse de nos bouches. Il n'y a pas de chance. La chance n'existe pas. Il n'y a pas de quiproquo, ou alors c'est des quiproquos provoqués par Dieu, mais les quiproquos, des fois, on met ça sous le couvert de la chance. Il n'y a pas de chance. Dieu a tout entre ses mains. Il a déjà prévu, il le dit dans sa parole, il a prévu des œuvres pour qu'on rentre dedans. Elles sont prévues, les œuvres. Il ne faut pas se dire, bah, tiens, moi j'ai eu la chance parce que j'ai trouvé un boulot. Non! Je ne dis pas ça. Vous ne m'avez pas entendu dire, ben moi j'ai eu de la chance, je n'ai eu que 3 mois d'inactivité, et j'ai eu que 3 semaines de chômage, et j'ai retrouvé un boulot. J'ai de la chance, non? Non, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. J'ai un Dieu qui pourvoit mes besoins. J'ai un Dieu qui pourvoit. Mais pour qu'il puisse pourvoir à mes besoins, il a fallu que je fasse le choix de dire, Seigneur, je reste dans tes voies. Seigneur, je reste fidèle à tes préconisations. Je reste dans cette prescription de Deutéronome qui dit, ben, je choisis le bien et la vie. Et le bien et la vie, c'est Dieu. Pas de chance. Des fois, il y a des personnes qui continuent à mettre ça sous le couvert de la chance ou qui voilà, se disent ben moi j'ai pas de chance parce que Dieu m'a pas guéri ou non, non. Et des fois on a tendance, pour revenir à cet esprit de marionnette, des fois il y a des personnes comme ça qui n'ont pas de tact. Il arrive que vous rencontriez des personnes ou qu'on rencontre des personnes qui soient malades et des fois j'ai entendu des gens dire mais voilà, si t'es pas guéri, c'est parce que t'as pas assez de foi. Ou dire des choses qui ne sont pas sympas. Dieu est là et il a envie de guérir tout le monde. Il veut ça. À nous d'avoir ce choix, d'avoir des paroles d'exhortation, d'aller voir ces personnes et en leur disant, oui, bah écoute, t'as pas la guérison, tu l'as pas encore, mais tu vas bientôt l'avoir. On continue à lutter. On va faire ce choix de continuer à lutter. Et on va lutter jusqu'à ce que. Donc si vous avez des personnes qui ont un handicap ou qui sont malades, n'allez pas les voir en leur disant, attends, t'es pas encore guéri, toi? Ben alors, qu'est-ce qui se passe? T'as pas pris de douche ce matin? Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on puisse faire le choix de rester dans des préconisations que Dieu veut que l'on fasse. Alors après, il y a aussi, si vous continuez, vous êtes malade et que vous avez cette maladie, imaginons quelqu'un qui dit j'en ai marre, alors je prends un exemple, hein, parce que moi je suis un petit peu en surpoids, voilà, si je continue à manger, à boire du coca et à manger des crêpes à longueur de temps, pourquoi je vais aller prier pour que Dieu m'aide à maigrir? Parce que je n'ai pas fait le choix de prendre soin de mon corps. Là aussi, c'est un choix. Dieu aime que l'on puisse rester dans une sainteté d'esprit et de corps. Que l'on continue à faire ce choix. Et ces choix vont très loin dans notre vie. Ça peut être dans le travail, dans la famille, ça peut être dans tout ce que vous pouvez imaginer, dans l'église également. Et surtout dans l'église, ça peut être avec vos enfants, mais c'est surtout dans votre corps. Avoir un choix. Avoir le choix. Un Timothée 4, 15 et 16. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès. Alors là, c'est Paul qui donne des préconisations à Timothée. Timothée avait un feu qui était vraiment bon feu. Et Paul l'exhorte à vraiment continuer à être dans ce feu et il lui donne plusieurs préconisations. Mais là, les versets 15 et 16 nous disent, occupe-toi de ces choses, en parlant des choses du royaume, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il y a une notion de progrès, et c'est là où je veux en venir, et c'est là la conclusion de mon prêche ce matin. C'est que Dieu veut non seulement qu'on fasse des choix, mais que par nos choix, nous puissions progresser. Dieu veut des chrétiens qui progressent. Dieu veut des chrétiens qui soient soit froids, soit bouillants, parce que les froids deviennent bouillants, mais pas des tièdes. Parce que Dieu veut que l'on progresse. C'est pour ça que tout à l'heure, j'aurais bien aimé avoir une foule d'amen quand j'ai dit que le Fred d'avant n'est plus le même qu'aujourd'hui. Toi, je vais me venger. On a un Dieu qui aime ça, le progrès. On est vraiment à l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est de dire, voilà, Seigneur, bah, ok, j'ai des préconisations, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, mais par ces préconisations, je vais rentrer dedans et je vais continuer à marcher et je vais continuer à progresser pour être de plus en plus agréable à tes yeux, pour être un chrétien digne de ce nom avec un grand C, un saint digne de ce nom avec un grand S. Parce que les saints, ce n'est pas les morts. Hein. Ne croyez pas ça. Ce n'est pas parce que Jean-Paul II, il a fait un miracle dans sa vie qu'il est devenu saint. Non. On est tous saints à partir du moment où vous donnez votre vie à Dieu, vous devenez saints. Vous êtes un saint. Et Dieu veut que dans cette sainteté, on puisse progresser, qu'on progresse dans la sainteté. Et c'est pour ça que Paul le dit bien, il dit, vas-y, continue dans tes progrès, parce qu'on voit que le Timothée d'avant, celui que j'ai connu avant et celui que je connais maintenant, n'est pas le même parce que tu as progressé. Tu as fait le choix de t'occuper de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Savez ce que ça fait une goutte d'huile dans de l'eau? Ça se propage. L'huile se propage. Alors ça ne se mélange pas avec l'eau, mais on ne va pas aller jusque-là, mais ça se propage, ça reste là, parce que la tache d'huile, elle s'étend. Elle s'étend. Et forcément, la Timothée, de par sa progression, va transpirer cette progression. Et à faire en sorte que ce choix qu'il a fait en prémisse permette à ce qu'il ait des progrès pour qu'il puisse toucher le monde. Trois paliers. Et ces trois paliers sont magnifiques. Parce que moi, je vous encourage chacun, et j'ai envie, moi, Fred, de pouvoir, moi, progresser, et que par ma progression, je puisse vous donner envie d'aller plus loin. Et je prends mon exemple à moi, mais je pourrais très bien dire Patrick. Ça y est, le bouc émissaire. Tu l'as senti venir, non? Mais Patrick pourrait très bien dire la même chose. Patrick, il dit, voilà, moi j'ai envie de progresser avec Dieu, je sais qu'il a un cœur pour Dieu, je sais qu'il a envie de ça. Et Patrick, il dit, voilà, moi j'ai fait le choix d'être ce matin à l'église, j'ai fait le choix d'être un chrétien pour pouvoir progresser et que par mon progrès, je puisse servir le royaume de Dieu pour qu'il y en ait d'autres qui soient touchés et qui progressent. Amen. Et je vais terminer par quelques choix. Je ne les ai pas mis là. Bon, il y a Hébreux 11, 24, 27. Je vais le lire. C'est pas mal. Bah si, c'est un des exemples. C'est un des exemples. Mais des exemples, il y en a plein dans la Bible, des exemples de choix. Moïse a fait le choix de refuser d'être appelé la fille de Pharaon. Il a refusé. Pourquoi? Pourquoi refuser une telle richesse? Parce qu'il a fait le choix du royaume de Dieu. Il savait pertinemment que s'il faisait le choix d'être appelé de la fille, pardon, de Pharaon, je vais y arriver. Je vais la refaire. Je vais prendre mon élan. Si Moïse a refusé d'être le fils de la fille de Pharaon, c'est parce qu'il savait qu'il allait devoir faire des compromis avec Dieu. Il le savait. Il savait qu'il allait s'éloigner de Dieu s'il acceptait ça. Et donc, il a fait le choix de rester dans la vie et le bien. Et donc, il a refusé ça. Et des choix comme ça, donc là, on peut le lire rapidement, refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. On a la notion de momentané, hein, c'est momentané, c'est un moment, c'est un petit moment. Il sait que là, mais bon, après, voilà. Bon, bref. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. On peut prendre Abraham. Abraham aussi, il a fait des choix. Parce que Dieu lui a dit qu'il serait le père des nations. Il a accepté de tout quitter pour partir dans un périple. Après, on a Job. Job, il a fait le choix. Il y avait tous ceux dans son entourage qui lui disaient « Mais vas-y, suicide-toi, renie Dieu et suicide-toi. » Il a dit « Non, je vais aller jusqu'au bout de la victoire, jusqu'au bout de l'épreuve. » Il y a le choix de Marthe et Marie, où Marie se plaint, vient voir Jésus et dit « Mais regarde, c'est moi qui fais tout, je suis en train de laver la vaisselle, je mets la vaisselle, je remplis le lave-vaisselle, et tout ça. » Et il dit « Mais Marthe, elle ne peut pas m'aider. » Mais Marthe, elle a fait le bon choix. J'ai dit Marthe et Marie ? Ouais, Marie, c'est Marie qui faisait. Ouais. C'est comme la fille de Pharaon, arrêtez. Hein. Voilà, des exemples comme ça. On a aussi Marie avec Joseph. Ils ont fait le choix. Vous vous rendez compte ? Ils étaient fiancés. Fiancés, elles tombent enceintes. Alors qu'ils sont fiancés. C'est abject. Ils ont fait le choix de dire, Seigneur, ok, on accepte ça. Joseph a accepté d'avoir une fiancée enceinte avant d'être mariée. Ils ont fait le choix. Et de tous ces choix, tout ce qu'on a pu voir, le résultat est merveilleux. Le résultat, il est somptueux. Parce que tous les choix que tous ces personnages que l'on a, et il y en a plein, il y en a des foisons, mais tous ces choix qui ont été faits, qui ont été pris, ont tous eu des résultats qui sont bons, puisque le royaume de Dieu a progressé. Et Dieu veut qu'on soit un peuple qui progresse. J'avais envie pour finir mon prêche et je n'ai pas trouvé. Je voulais mettre une petite vidéo, j'ai des vidéos dans la tête, mais voilà. Je voulais prendre, vous savez, quand on met toute une armée en ligne, et puis vous avez le gradé qui est là, souvent ce sont les adjudants-chefs. Il n'y a pas un adjudant-chef ici, non ? Non ? C'est les pires, hein, les adjudants-chefs. Ouais ? Ouais, à part ceux qui n'ont pas fait l'armée. Hein ? Moi, j'ai fait l'armée, moi, monsieur. Et l'adjudant-chef, souvent c'est des petits roquets. Hein. Et ils disent je veux des volontaires, que ceux qui sont volontaires fassent un pas en avant. Alors des fois il y a la personne qui fait le pas en avant, mais là moi, ce que je voudrais c'est que vraiment toute l'armée de Dieu puisse faire ce pas en avant pour dire oui, l'adjudant-chef. Alors nous on n'a pas de petits roquets hein, dans le milieu, dans l'église hein. C'est dans les autres églises qu'on a des petits roquets, mais ici on n'en a pas. Et on a cet adjudant-chef là qui nous dit, l'adjudant-chef à la limite c'est Jésus, qui nous dit voilà, moi je veux des volontaires et que les volontaires fassent un pas en avant. Et je voudrais que l'armée de Dieu puisse faire deux pas en avant pour dire non seulement Seigneur, j'y vais, mais je vais progresser pour pouvoir aller de l'avant encore plus avec toi. Est-ce que vous avez envie de ça ? Est-ce que vous avez envie de voir ces progrès dans l'Église pour qu'on puisse voir une Église vivante, une Église qui a des témoignages ? Ça veut dire que s'il y a une Église qui a des témoignages, c'est une Église qui a du feu. Et s'il y a une Église qui a le feu, c'est une Église qui aura des témoignages parce qu'elle progressera, parce qu'elle a fait le choix de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est une Église qui a fait le choix de dire ok, on ne va pas rester tous là, à stagner, on ne va pas rester dans de la tiédeur, et ce n'est pas le cas du phare, je vous rassure. Au contraire, bien au contraire, on est une église bouillante pour Dieu, parce qu'on veut que ça progresse. Et quand vous voyez les annonces, quand je disais qu'on pourrait faire un prêche sur les annonces, c'est tout à fait ça. On a des mariages, on a des réunions qui se passent, on a des baptêmes qui arrivent, on a des témoignages de gens qui ont trouvé du travail, on a des témoignages de guérison, on a des espaces, l'espace café de l'évangélisation, on a des soins pastoraux, on a waouh. Je vous encourage à venir des fois, peut-être même dans les coulisses du phare, dans les coulisses, de voir ce qui se passe pour ceux qui ne connaissent pas réellement le phare. Quand on prie, quand il y a ces moments d'intercession qui sont beaux, parce qu'il y a des victoires qui sont là, parce que Dieu sait qu'on a fait le choix de travailler pour lui. Amen. On va se lever, on va prier.